Laudetur Jesus Christus.
Vers une nouvelle étape de la guerre à Gaza, la pression s'accentue sur le gouvernement Netanyahou qui réunit aujourd'hui son cabinet de sécurité. De nouvelles mesures militaires sont attendues. Proche-Orient, toujours en Syrie, la ville de Souaïda barricadée. Deux semaines après le cessez-le-feu, les combats y ont repris entre druzes et forces gouvernementales. La Turquie privilégie les champs miniers aux plaines agricoles. Un projet de loi adopté en ce sens continue de faire débat. Et puis le suspense reste entier au Cameroun avant la présidentielle d'octobre. La Cour constitutionnelle doit rendre son avis sur les 35 recours déposés par des candidats recalés.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, le Premier ministre israélien entend étendre la zone de combat dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou réunira ce soir son cabinet de sécurité restreint au cours duquel il pourrait annoncer l'annexion de la totalité du territoire palestinien sous le coup d'une offensive déclenchée par l'attentat du Hamas le 7 octobre 2023, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la fin de la guerre. Le chef de la coalition au pouvoir semble ne pas vouloir céder, Jean-Charles Puzolu.
Les récentes vidéos des otages ostensiblement amaigris et affaibli divise l'opinion publique israélienne, avec d'un côté ceux qui souhaitent que soit mis fin à la guerre pour obtenir la libération des 49 otages restants, dont 27 seraient décédés, et de l'autre ceux qui souhaitent leur libération comme condition préalable à la fin de l'offensive. C'est dans ce deuxième camp que se situe le gouvernement israélien depuis le début de la guerre, et Benjamin Netanyahou ne semble pas vouloir changer de position, malgré une pression qui monte chaque jour un peu plus. Seul fléchissement de ces dernières 24 heures, le feu vert israélien à l'entrée partielle dans Gaza de marchandises privées, ce qui inclut un nombre limité de commerçants qui pourront faire entrer des produits alimentaires de base, des aliments pour bébés notamment, ainsi que des fruits et légumes et des articles d'hygiène. Sans que l'on sache officiellement ce qui sortira de la réunion du cabinet restreint de ce soir, la presse israélienne cite aujourd'hui, sous couvert d'anonymat, des représentants de l'État qui prédisent l'invasion totale de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Hier pourtant, plus de 600 anciens responsables de l'appareil sécuritaire en Israël, du Mossad et du Shin Bet notamment, avaient appelé le président américain Donald Trump à faire pression sur le premier ministre israélien pour mettre fin à l'offensive. Le Forum des familles, la principale organisation de familles d'otages, accuse, elle, le gouvernement de mener, je cite, « Israël à sa ruine et les otages à leur mort ». Fin de citation.
Merci Jean-Charles Puzolu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va d'ailleurs consacrer l'une de ses sessions du jour aux otages israéliens. En Syrie, la situation humanitaire se dégrade dans le sud du pays, résultat de violents affrontements qui opposent les factions armées druzes, les clans bédouins et la sécurité générale du gouvernement. Les combats ont repris, tuant 4 personnes ce dimanche, malgré le cessez-le-feu du 20 juillet. Deux semaines après sa signature, la ville de Souaïda, fief de la communauté druze, vit comme assiégée, connaît de lourdes pénuries. Près de 173 000 personnes, en majorité bédouines, ont fui la ville pour trouver refuge dans la province voisine, à Deraa. Notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin, les a rencontrées dans la ville d'Izra.
L'école d'Isra a été transformée en refuge. À terre, des dizaines de matelas ont été disposés entre des sacs de vêtements. 80 familles du village de Charba, tous des bédouins, ont été déplacés là. De sa famille, Kitam, 18 ans, elle n'a plus que son père. Le reste a été tué par des milices druzes lors des derniers affrontements sectaires.
Ils nous ont tous tirés dessus. J'ai mis mes mains sur mon visage pour ne rien voir. L'un d'eux a dit « Laissez cette fille, elle va se vider de son sang et mourir ».
Coincé dans son fauteuil roulant, Kitam montre ses blessures recouvert de pansements. Son père tente de la rassurer, mais au fond, dit-il, c'est peut-être moi le plus inquiet.
Notre seul tort est d'être sunnite. Désormais, ils ne veulent que des druzes à Souaïda. La coexistence, je crois, est impossible avec la présence des milices de Al-Hijri.
Dans la salle d'à côté, un homme allongé à terre, la jambe immobilisée, fait défiler les images des exactions des semaines passées. Ici, un petit garçon, la tête arrachée par une déflagration. Là, une jeune fille, les yeux cernés, victime d'un traumatisme crânien après avoir été violemment frappée. Elle a été transférée à l'hôpital de Damas. L'un des hommes veut de ses nouvelles, passe un appel.
Elle est en vie.
Un groupe de volontaires entre dans l'école, prend les noms, distribue de la nourriture, de l'argent, quelques savons. C'est bien, mais pas suffisant, soupire Mouna, 60 ans. À Souaïda, j'avais des champs, dit-elle, des tracteurs, une grande maison. Ici, nous sommes réduits à attendre l'arrivée des dons. À Deraa, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Des négociations internationales au cœur de l'été, les débats pour lutter contre la pollution plastique viennent de s'ouvrir à Genève pour 10 jours et en présence de représentants de 175 États. Après l'échec de la conférence internationale à Busan en Corée du Sud l'année dernière, l'ambition est d'esquisser un premier traité international contre ce fléau. Rappelons que l'État de la Cité du Vatican a banni le plastique à usage unique en 2019. L'école maternelle gratuite dès l'automne, c'est le projet que prépare progressivement la Chine, annonce son Conseil des Affaires de l'État ce matin. Une mesure pour tenter de juguler la crise démographique dans ce deuxième pays le plus peuplé du monde. La semaine dernière, déjà, le gouvernement chinois annonçait le versement aux parents d'une aide annuelle équivalente à 420 € par enfant de moins de 3 ans. Une volonté d'apaisement entre les deux Corées. La Corée du Sud annonce ce lundi le retrait des 20 haut-parleurs le long de la frontière avec le Nord. Le nouveau président sud-coréen souhaite en effet un dialogue transfrontalier sans conditions préalables. Ce dimanche aura lieu la journée de prière pour la réunification de la péninsule coréenne, promue par le Conseil œcuménique des Églises. En Turquie, une loi ouvre désormais certaines terres agricoles, dont des champs d'oliviers, aux exploitations minières. Le texte a fait l'objet de vifs débats dans l'hémicycle et plusieurs jours de manifestations devant le Parlement à Ankara. Mais le gouvernement du président Erdogan, jugeant le texte nécessaire, a refusé de faire machine arrière. Les explications d'Anne Andlauer.
Malgré le rejet de l'ensemble des partis d'opposition, malgré plusieurs jours de manifestations devant les grilles du Parlement et 2 semaines de sit-in dans un parc d'Ankara d'un groupe de villageois qui ont entamé une grève de la faim, les députés du bloc au pouvoir ont adopté ce texte voulu par le gouvernement. Ses détracteurs l'ont baptisé la loi de super-autorisation, car elle vise à faciliter et à accélérer les procédures d'autorisation pour les entreprises qui investissent dans l'énergie et l'exploitation minière. Il sera désormais beaucoup plus simple d'exproprier des terres et de mener des projets dans des zones naturelles protégées, notamment les champs d'oliviers. Un article prévoit par exemple le transfert sur d'autres terres des arbres arrachés par les sociétés minières. Or, ces oliviers, symboles de la Turquie, plus particulièrement de ses régions égéennes, étaient considérés comme intouchables, notamment depuis une loi de 1939. Mais le gouvernement a présenté ce texte sur les mines comme nécessaire pour le développement économique du pays. Agriculteurs et défenseurs de l'environnement promettent désormais de continuer leur lutte au niveau local, au pied des oliviers. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Éviter les voies irrégulières, supplient les autorités éthiopiennes ce mardi, 2 jours après le naufrage d'une embarcation de migrants éthiopiens au large du Yémen. Au moins 76 personnes y ont perdu la vie. Le pape assure prier pour elles. Des politiques migratoires prudentes et sages sont nécessaires, estime le vicaire apostolique d'Arabie méridionale, Monseigneur Martinelli, dans un entretien à l'agence CIR. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel s'est penché ce lundi sur les 35 recours déposés par les candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre. Parmi eux, l'opposant Maurice Kamto. Avec ses conseillers, il a quitté le Conseil constitutionnel où il a plaidé lundi après-midi pour tenter de sauver sa candidature. La décision sur son cas a été renvoyée à ce mardi. Eba Essongué.
Lors de cette première journée, marquée par des discussions houleuses, plusieurs décisions ont été rendues. Le Conseil constitutionnel a notamment rejeté les requêtes d'un Gakam Honoré qui sollicitait la constatation de la vacance du pouvoir et celle de Kisso Bertin qui visait à annuler les candidatures de Paul Biya. Les deux demandes ont été jugées irrecevables. La requête de Léon Taylor Onana relative à l'irrégularité de la candidature de Paul Biya a également été rejetée par le Conseil. En revanche, la candidature de Issa Tiroma a été validée malgré un recours contesté par un groupe se revendiquant du FSNC. Quant à l'opposant Maurice Kamto, il devra patienter jusqu'à ce mardi pour connaître son sort. Après plus de 5 heures de débat sur fond de tension autour de la pluralité d'investiture au sein du Manidem ou de la recevabilité au nom de sa candidature, le Conseil constitutionnel a décidé de mettre l'affaire en délibéré avec un verdict attendu aujourd'hui à 15h dans un climat de forte tension politique. Eba Essongué, à Yaoundé, pour Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, un mot de la solennité de ce jour Notre-Dame-des-Neiges qui marque la dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure où repose désormais le pape François. Il s'y était d'ailleurs rendu ce jour l'été dernier, participant à la célébration des secondes vêpres, alors présidée par Mgr Macricas, recteur archiprêtre de la basilique. Elles le sont cette année par le substitut de la secrétaire d'État, le diplomate vénézuélien Mgr Edgar Peña Parra. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute et fidélité à l'antenne de Radio Vatican. Prochaine édition, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente journée.